Bonjour à tous, vous êtes sur les ondes de RCF Corsica aujourd'hui et nous sommes cette semaine pour commenter l'actualité avec Monseigneur de Germay. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Raphaël.
Nous avons plusieurs sujets aujourd'hui. Monseigneur, fin juillet 1968, le pape Paul VI promulguait une lettre, une encyclique, c'était Humanae Vitae. Elle concernait, c'est une citation pour le titre, la très grave responsabilité de transmettre la vie humaine. 50 ans après, quelle est encore pour vous la dimension complète de cette lettre papale, alors même que le Sénat d'Argentine, par exemple, après nombre de pays, doit se prononcer par un vote prochain sur un projet de loi légalisant l'avortement?
Oui, alors vous l'avez dit, cette encyclique a été publiée en juillet 1968, donc vous l'avez compris, c'est juste après mai 68, donc c'est dans un contexte quand même assez particulier de cette époque marquée, disons, par un peu un rejet d'un certain nombre d'institutions, de lois, etc. Et évidemment, l'Église n'a pas été épargnée dans ce contexte. Il y a aussi c'était le contexte aussi de ce qu'on a appelé la révolution sexuelle ou la libéralisation sexuelle. Donc, on est dans un contexte très particulier. Alors, on peut s'en douter, ce texte du pape Paul VI n'a pas été très bien accepté. Hein. En fait, il réagissait, si vous voulez, c'était l'époque aussi où il y avait la pilule contraceptive toute récente qui était désormais accessible et dont l'emploi se généralisait. Et le pape Paul VI, si vous voulez, avait eu l'intuition. J'ai l'intuition parce que, bien sûr, il y avait derrière une réflexion, mais on n'avait pas les éléments qu'on a aujourd'hui. Il avait eu l'intuition que on prenait un chemin dangereux avec cette généralisation de la contraception qui, au fond, si vous voulez, introduisait une disjonction, une séparation, une dissociation entre la sexualité et la fécondité. C'est-à-dire que voilà, finalement, ben voilà, on pouvait enfin vivre une sexualité sans fécondité, ce qui, à première vue, n'était que des avantages, hein, puisqu'on pouvait, et ça a été le cas d'ailleurs, davantage espacer les naissances, mieux réguler le nombre d'enfants que l'on voulait, etc. Donc apparemment, c'était tout bénef, comme on dit. Mais il a eu cette intuition que là, on touchait à quelque chose de dangereux. Et en fait, l'avenir lui a donné raison, puisque cette disjonction entre sexualité et fécondité a été suivie par bien d'autres. Si vous voulez, on a commencé à détricoter un ensemble de réalités qui vont naturellement ensemble, qui allaient plus ou moins naturellement ensemble, la sexualité, la fécondité, le mariage, l'amour, la paternité, la maternité, la filiation. Vous voyez, et aujourd'hui, si on prend un peu de recul, on se rend compte que toutes ces réalités, ces disjonctions d'ailleurs, comme le dit le Conseil consultatif national d'éthique, puisque ces questions-là sont abordées dans le cadre des états généraux de la bioéthique. Au fond, on constate aujourd'hui que tout cela est en train de se dissocier. Donc aujourd'hui, non seulement on peut avoir une sexualité sans fécondité, mais on peut aussi avoir une fécondité sans sexualité. On revendique maintenant une procréation avec la PMA qui, pour certains, devrait être ouverte à toutes, une procréation sans paternité, hein, puisqu'il y a un effacement du père. On va utiliser, si vous voulez, des gamètes, des spermatozoïdes, mais le père sera inconnu. Et donc, il y aura aussi une fécondité, sans filiation. Donc, oui, il y a un petit peu tout ça qui est apparu. Et on se rend compte que finalement, ces choses qui apparemment sont anodines ont totalement changé notre rapport à la procréation, à l'enfant, à la famille, à la filiation. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que ça a beaucoup de conséquences éthiques. Je dirais aussi que ce soit pour des personnes croyantes ou non croyantes, aujourd'hui, un certain nombre de femmes rejettent la contraception, la pilule contraceptive, et cherchent des alternatives parce qu'elles se disent d'abord, on en a marre de bombarder notre corps d'hormones de 15 ans à 45 ans. Et on se rend compte aussi que ce n'est pas sans poser des questions, sans conséquences écologiques. Donc, on se rend compte que finalement, le pape Paul VI avait été plutôt prophétique et le pape François lui-même a dit il faut redécouvrir et approfondir ce sens de cette encyclique Humanae Vitae.
Depuis le 31 juillet, la Corse est placée en vigilance orange face à la canicule après nombre de départements. La canicule de l'été 2003, avec 70 000 morts dans l'ensemble de l'Europe, avait été une crise sanitaire majeure et signait aussi peut-être une forme d'abandon moral. En famille, comme pour tous ceux qui sont seuls, que vous inspirent ces crises climatiques régulières et leurs enjeux publics, des crises moins rares décidément qu'il y a 15 ans ?
Alors, c'est vrai que la crise de 2003 avait surpris tout le monde et avait fait de nombreuses victimes. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'était assez impressionnant. Alors, je crois qu'il y a maintenant une prévention qui est quand même plus efficace. Hein. Nous entendons régulièrement sur les diverses radios des spots pour rappeler un certain nombre de précautions à prendre, personnellement, mais aussi pour ses voisins, parce qu'il y avait aussi derrière l'idée d'une solidarité à travers tout ça. Est-ce qu'on se soucie déjà de nos parents qui sont âgés ou de nos voisins, etc. Donc il y a quand même une sensibilisation qui est plus importante aujourd'hui. Il y a eu aussi des normes qui ont été édictées, ce qui fait que par exemple dans les maisons de retraite, elles sont mieux équipées. Alors c'est encore, je crois, si je ne me trompe, la loi demande à ce qu'il y ait au moins un lieu qui soit climatisé. Hein. Donc ça ne veut pas dire évidemment que toutes les chambres sont climatisées, loin de là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous l'avez évoqué, ce sont des choses qui sont de plus en plus fréquentes, hein, ces épisodes de canicule. Nous sommes dans le contexte du changement climatique et je crois qu'il faut rappeler une fois de plus qu'il devient urgent aujourd'hui de changer nos modes de vie, hein, chacun d'entre nous, de faire le choix d'une vie plus sobre, de consommer moins d'énergie, de dépenser moins, de jeter moins, de faire le tri, etc. Il en va vraiment de l'avenir de notre planète commune.
Et en considérant les drames de 2003 et avec un regard chrétien, alors que s'annonce du 11 au 16 août le 145e pèlerinage national de Lourdes, percevez-vous notre époque comme plus marquée par l'égoïsme ou l'indifférence face aux malades et à toutes les formes de souffrance ?
C'est difficile de répondre à cette question et d'avoir, je dirais, un jugement d'ensemble. Hein. Il est sûr que nous avons aujourd'hui un mode de vie beaucoup plus individualiste. Ça, c'est certain, personne ne le nie. Après, il existe aussi de belles solidarités. Hein. Donc, il ne faut pas non plus dresser un tableau trop noir. Il y a de belles solidarités, en particulier au sein des familles. Hein. Et en réalité, je dirais que cela nous concerne tous. Au fond, souvent, nous avons tendance à avoir des solidarités, je dirais, à géométrie variable. C'est-à-dire que on peut être très solidaire de personnes malades ou handicapées parce qu'on est directement concerné ou particulièrement sensibilisé à ce type de souffrance ou de problème. Et en même temps, on peut être indifférent à d'autres types de précarité ou de souffrance. Je pense, par exemple, aux SDF que l'on croise dans la rue ou aux migrants ou à ceux qui se noient en Méditerranée. Pas si loin d'ici. Donc voilà, je crois que de manière générale, je crois qu'il nous faut apprendre à dépasser nos peurs vis-à-vis des personnes malades, des personnes handicapées, des personnes en marge de la société. Hein, il y a souvent des peurs derrière tout ça. Et je dirais, comme nous y invite le pape François, il faut oser la rencontre. Oser alors aller à la rencontre de ces personnes qui peuvent peut-être parfois nous faire peur. Et c'est là qu'on se rend compte qu'au fond, nous avons tous nos handicaps, nous avons tous nos manques, nos fragilités, et que dans la rencontre, finalement, nous nous enrichissons les uns les autres avec nos différences. Je crois que le danger serait de vouloir construire une société où la vulnérabilité serait supprimée ou cachée. Une société qui est mue uniquement par la recherche de la performance, une société qui met en valeur ceux qui sont jeunes, qui sont beaux, qui sont en bonne santé, performants, et etc., et puis qui met tous les autres de côté. Je crois vraiment qu'une telle société s'appauvrit et va à sa perte. Il faut au contraire favoriser, disons, une société où on se sent solidaire les uns des autres, et où on reçoit les uns des autres. Je crois que la véritable réussite dans la vie, ce n'est pas d'être toujours performant, de dominer ou d'écraser les autres, mais c'est d'être capable de donner et de recevoir. Au fond, c'est d'être capable d'aimer.
Voici deux ans, le 26 juillet 2016 précisément, le père Jacques Hamel était assassiné dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray pendant sa messe. Sa mort avait été très vivement ressentie. Quel exemple offre-t-il par son martyre à vos yeux pour chacun de nous et peut-il susciter des vocations ?
Alors, c'est vrai que sa mort a beaucoup marqué, je dirais même choqué, aussi bien d'ailleurs des croyants que des non-croyants. Hein. Ça a eu un retentissement, un impact très important en France et bien au-delà. Pourquoi ? Parce que il s'agissait d'un prêtre. Et alors, malheureusement, c'est assez banal dans certains pays. Je vois en Amérique latine, je ne sais plus dans quel pays, il y a eu une quarantaine de prêtres assassinés dans l'année. Mais en France, c'est quand même un événement assez rare. Et puis en plus, assassiné sauvagement alors qu'il célébrait l'Eucharistie. Je crois que ça a beaucoup choqué. Et c'est vrai que pour nous, catholiques, cela prend une dimension particulière parce que l'Eucharistie, nous faisons mémoire du sacrifice du Christ et que nous sommes appelés à y participer en nous associant à son offrande. Là, on peut dire que le Père Hamel, il l'a fait, il s'est associé au sacrifice de Christ de la manière la plus radicale qui soit. Mais au-delà de sa mort, qui était effectivement spectaculaire, si on peut dire, en tout cas qui a beaucoup marqué, on découvre aujourd'hui la vie de ce prêtre qui a été, au fond, un anonyme pendant plus de 85 ans. Je crois qu'il avait 86 ans quand il a été assassiné et qui va être mis en lumière, qui va être canonisé. Donc c'est aussi l'exemple, si vous voulez, d'une belle vie de prêtre qui a été vécue dans l'humilité, dans la discrétion, dans la fidélité. N'oublions pas qu'il a passé une période où un peu difficile. Dans les années 70-80, il y a eu beaucoup de prêtres qui ont quitté le ministère. Il a vécu ça dans la fidélité, dans l'obéissance, dans le don de soi, dans l'amour du Christ et des gens. On a des témoignages aujourd'hui de personnes qui nous disent combien il était aimé, ce prêtre, et lui qui était à la retraite, une retraite bien méritée depuis quelques années, il continuait à rendre service. Et paraît-il qu'il pouvait faire 5, 6, 7 obsèques dans la semaine. Oui, donc oui, c'est vraiment une vie donnée avec humilité, dans la discrétion. Et je crois que ça nous rappelle qu'il existe aujourd'hui beaucoup de prêtres dans nos diocèses qui vivent simplement, qui vivent sobrement, avec leurs limites bien sûr, ils ne sont pas forcément parfaits, mais en donnant leur vie au quotidien pour que les gens découvrent l'amour de Dieu. Donc oui, pour moi, son exemple, il est d'abord là. Alors, on ne peut pas imiter son martyr, mais on peut chercher à imiter cette fidélité à l'Évangile au quotidien. Alors ensuite, vous me demandez, est-ce que ça va susciter des vocations ? J'en sais rien, tant mieux si ça donne envie à des jeunes de donner leur vie, non pas pour être martyrs, mais pour se mettre au service de l'Église, du Seigneur et des gens, pour les aider à faire un pas vers le Christ qui est vraiment la source de notre salut, de notre bonheur.
À l'heure où nous enregistrons cette émission, vous vous préparez à vivre la belle journée du pèlerinage Notre-Dame de Bavel, dimanche 5 août. Que représente pour vous ce moment ?
Ah, c'est pour moi chaque année un moment particulier dans l'été. D'abord parce que c'est une grande fête populaire, comme peuvent l'être les grandes fêtes patronales. Je dirais que la particularité de ce pèlerinage, c'est qu'il se passe dans un lieu, vous l'avez dit, au col de Bavel, qui est en altitude, j'ai plus l'altitude en tête, mais c'est quand même en montagne, et qui est un lieu de pèlerinage. Bon, il y a sur le col, il y a la statue de la Vierge Marie, mais c'est aussi un lieu touristique. Beaucoup de touristes passent par là, et donc à cette journée, j'allais dire, il y a un peu un heureux mélange entre touristes, pèlerins, cyclistes qui passent par là. Et lorsque nous célébrons la messe, j'aime beaucoup cette messe à l'ombre des arbres. Il y a un lieu très, très agréable. Il peut y avoir, je ne sais pas, 800, 1000 personnes à cette Eucharistie. On voit toujours des gens qui sont là, visiblement, un peu par hasard. Vous voyez, un peu des curieux, des touristes, des gens qui sont en tenue de cycliste parce qu'ils passaient par le col en vélo à ce moment-là. Bon. Et c'est beau parce que ça peut être l'occasion pour certains de reprendre conscience qu'ils sont aimés de Dieu et que le Seigneur les attend et que si on veut aller vers Dieu, il faut se bouger. Il ne faut pas simplement faire du vélo, mais il faut aussi se bouger spirituellement. Et donc, j'aime beaucoup ce lieu. L'an dernier, ça avait été annulé à cause des incendies. Mais il y a 2 ans, nous avions proposé des confessions avant la messe et certaines personnes sont venues se confesser. Ce n'était pas confessé depuis des dizaines d'années. Donc, c'est vraiment un lieu de grâce.
Eh bien, Monseigneur, merci. Et nous vous retrouverons très prochainement pour commenter à nouveau l'actualité sur RCF Corsica.
Avec joie, merci.